Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Magnifique émission qui s'annonce aujourd'hui. Ah oui, il fait beau, magnifique. L'été est de retour, eh ben, ça tombe bien parce qu'il y a du soleil sur le plateau comme tous les jours. On va se régaler en votre compagnie pendant deux heures de foot, d'actu. Et il y en a beaucoup de l'actu foot, donc restez bien avec nous. On va se régaler avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
On va se régaler, pourquoi ? Parce que j'aime bien cette équipe.
Ah oui.
Ah j'aime bien, ouais. Ah, il y en a un, malheureusement il vit une année très très compliquée.
Ah oui.
Mais bon, les années se suivent, elles ne se ressemblent pas forcément.
Exactement.
On lui souhaite en tout cas à notre Corse national, Pascal Olmeta. Salut Olmeta.
Les amis.
Salut
les
Pascua. Amis.
Comment ils vont ?
Ça va, on pense à toi.
Ouais, ça va très bien.
Bastia a dit qu'il descend en Ligue 3.
Très triste, ouais. Très malheureux.
Ouais.
Et beaucoup de monde qui était au dernier match, plus de 13 000 personnes. C'était catastrophique la descente.
On le sentait arriver, hein, Pascal. Hein. De toute façon, hein, même avec une victoire, il serait descendu parce que Laval avait gagné.
Tout à fait.
Non, mais c'est certain, on connaît ça quand les clubs partent mal et qu'ils font une année très très difficile.
Et qu'ils font n'importe quoi. Voilà, parce que y a des fois, ça arrive de ne pas être inspiré, de faire n'importe quoi. Ça a été le cas cette année, malheureusement. On est, et Jean-Michel Larquet le sait aussi.
Ah,
salut Jean-Mi.
Salut Jean-Michel.
Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour.
Et joyeux anniversaire.
Et joyeux anniversaire, Jean-Michel.
Les poteaux carrés, la finale.
J'ai rajeuni, là. Je n'ai que
Il n'y a pas que les poteaux qui sont carrés, Jean-Michel.
50 ans, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que ça te fait, Jean-Michel ? C'est fou, non ?
Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse aujourd'hui ?
Est-ce que tu y penses tous les jours à cette finale ?
Déjà, il y a 5
ans. Bien sûr, j'y pense tous les jours. Tous les matins, en me rasant, je n'arrêtais pas d'y penser.
Ça ne m'étonne pas.
Quand tu te déplaces avec le déambulateur, tu y penses, Jean-Mi ?
Avec le déambulateur.
Laisse les déambulateurs tranquille.
C'est dingue. Alors, il n'a pas de
déambulateur.
Il n'a pas de déambulateur.
Nous avons fêté ça.
On l'a vu à Geoffroy Guichard.
Ah ouais.
Tiens, justement. Pour vous dire que s'ils étaient 13 000 à Fouriani, et c'est déjà très bien, ils étaient quand même 39 700
magnifique.
À Geoffroy Guichard.
Eh ouais.
Ce qui est pas mal. Et puis, voilà, ça y est, 76, comme je l'avais dit, à tous ces messieurs, c'est terminé. Merci de nous avoir si bien honorés. Et maintenant, on tourne la page et l'avenir, c'est à vous de l'écrire. Maintenant.
Notamment vendredi, pour le tour de barrage face au vainqueur de Red Star Rodez. C'est ce soir à 20h30 sur RMC.
Absolument. Hein. Voilà, on sera attentif aux résultats.
Tout à fait.
Et demain,
on va se régaler.
Et demain, ça sera les 50 ans de la descente des Champs-Élysées sur une défaite. Ça s'est jamais vu.
Mais on va en parler de tout ça. Hein. Allô, Jérôme.
Ah ouais,
dédié à cet anniversaire, un grand rendez-vous, une page d'histoire du foot français. La finale de 76 de l'AS Saint-Etienne, qui c'est les plus forts, évidemment. Ouais. C'est les Verts. On va faire des retrouvailles. Bon, ils étaient ensemble jusqu'à hier. Hein, donc Jean-Michel Larquet sera accompagné de Christian Lopez. Christian Lopez, Jean-Michel Larquet à 18h45 dans Allo Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme ?
Non, on reva, t'as dit. Alors, je sais pas, j'ai pas compris.
On reva.
Si, je crois. Écoute, on a les bandes. Arrête.
Hein. Bon, on écoutera. En tout cas, rendez-vous 18h45 pour ce grand moment.
Ouais. Grand moment.
Vous le savez, et c'est l'actu aujourd'hui en Espagne. Conférence de presse extraordinaire de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Ça va démarrer d'ici quelques secondes. On vous tient informé.
On revient à Madrid
à 19h. Mourinho peut-il être le sauveur du Real ? C'est lui le favori pour succéder à Arbeloa sur le banc madrilène. On fera le point sur toutes les infos. On suit ce qui se passe en conférence de presse et on vous attend au 32-16 pour en débattre avec nous. Mourinho au Real.
On a des bonnes idées, Pérez.
Bon, on verra. Et puis un grand procès dans Roten sans flamme. Ah, vous êtes toujours excellent sur ce sujet. Jérôme, on va faire le procès de tous ceux qui pensent que les entraîneurs français sont dévalorisés. Hier, c'est Pierre Sage qui a gagné le trophée du meilleur entraîneur. Souvent en chouine, on dit les Français ne sont pas respectés. On le pense encore. Certains dans Roten sans flamme le pensent encore. Et ben voilà, tu pourras les attaquer à 10
minutes. Les attaquer en plus, ils sont deux.
Tout à fait. Et puis l'événement, ça aussi, ça parle à Jean-Michel Larquet. Ce sera le 22 mai, vendredi 22 mai au Stade de France. La finale de la Coupe de France Crédit Agricole entre Lens et Nice. Match à suivre sur RMC, évidemment. Si jamais vous voulez avoir la chance de gagner deux places, envoyez tout de suite le mot final au 732-16. Final au 7-32-16. Le tirage au sort sera effectué dans Rotten sans flamme à 19h30 vendredi. Restez à l'écoute et jouez donc en voyée finale au 7-32-16. 18h05 sur RMC, tout de suite. Rotten sans flamme s'occupe des entretiens d'embauche à l'OM.
Bonne chance, chérie, bonne chance.
Bien quand sûr. Est-ce qu'on va poser les pierres et que ça va être une construction saine?
Aujourd'hui, en tant que directeur, je suis au service d'un club. J'essaye de faire mon travail du mieux possible, avec forcément mes qualités, mes défauts. Je fais des erreurs aussi comme tout le monde.
Il peut progresser sur quoi, une gamine comme ça?
Peut-être que le train passera qu'une fois, peut-être que c'est le moment, peut-être qu'on arrive à un moment donné de se dire on arrive au bout aussi avec un club.
Mais j'ai rien vu, mais où tu l'as vu?
On arrive aussi à une Ligue des Champions qu'on a envie de connaître, parce que pour moi, c'était quand même un aboutissement d'un travail que j'avais effectué depuis des années.
Écoute, je sais pas, ça va se passer quand ce truc là.
Ça fait aussi toujours plaisir quand on a des clubs qui s'intéressent et quand vous avez aussi des appels de certaines personnes.
Je suis pas ton fils moi, je suis pas avec moi.
Depuis des années, je suis pas seul, j'ai une équipe, j'ai besoin des joueurs, j'ai besoin d'un staff, donc la réussite elle a toujours été collective.
I have a question for you.
Yes.
Why Popovic
Le fait d'avoir quand même fait quelque chose d'exceptionnel, ben, ça attire.
Ben trop tard. Vous m'avez pris ma question.
Bonne chance, chérie.
L'OM a donc fait son choix. Grégory Lorenzi sera le prochain directeur sportif du club. Il va succéder à Mehdi Benatia qui partira d'ici la fin de saison. Les dirigeants marseillais ont voulu accélérer parce que les chantiers sont nombreux, déterminer le futur entraîneur, donner de la visibilité aux joueurs qui sont encore sous contrat, et puis également s'adapter aux contraintes budgétaires liées à la non-qualification pour la Ligue des Champions. Précisons que rien n'est signé pour le moment, mais que tout devrait s'accélérer dans les prochains jours. Lorenzi aura les pleins pouvoirs sportifs. On peut en parler avec Pierre-Yves Leroux, notre correspondant à Nantes et sur la Bretagne. Salut Pierre-Yves.
Salut Benoît,
salut Pierre-Yves. Salut
Jérôme. Bonjour à tous.
Alors, bonjour. On en parle avec toi parce que tu suis les clubs bretons, notamment Rennes et Brest. Lorenzi a lancé
peut-être
ça.
Peut-être parce que Grégory Lorenzi, il y a 20 ans, était au FC Nantes.
Ah, c'est vrai, aussi.
Mmh. Il est passé à Bastia. Les gars, aussi. Il est né où? Il est né où, là?
C'est un Corse,
bien sûr. Mais bon, c'est un Corse.
Bastia.
Il a le sang bleu, lui.
Voilà. 10 années à la direction sportive de Brest, pile une décennie qui lui a permis de faire passer le club de Brest de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. C'est un parcours incroyable de Lorenzi à Brest.
Oui, et la première chose à rappeler sur Grégory Lorenzi, c'est qu'il arrive à Brest tout jeune retraité. Il est à la fin de sa carrière de joueur. Il est à Brest comme joueur. Il lui restait même une année de contrat et il est dans un club où il y a tout à bâtir. Il devient directeur sportif d'un club qui a 8 joueurs sous contrat, pas de coach, pas de staff, pas de centre d'entraînement. Mais le nouveau président Denis Le Saint voit cette nomination comme une évidence et c'est vrai que le travail a été remarquable. Tout le monde est émerveillé à Brest, hein, quand on en parle, par le travail accompli sur cette décennie par Lorenzi, par les résultats, mais aussi la manière, parce que il est facilement décrit comme quelqu'un qui échange facilement, qui est calme, posé, réfléchi, intelligent. Il a su, avec peu de moyens, mener le Stade Brestois, tu le disais, du 12e budget de Ligue 2 à la Ligue des Champions, en étant malin dans son recrutement et en rapportant, on peut le rappeler, environ 60 millions d'euros sur les transferts avec des garçons comme Fèvre, Diallo, Brassier, mais il y en a eu un certain nombre pendant ces 10 ans. Yvon Leroux, qui est ambassadeur du club, avec qui j'ai échangé en début d'après-midi, et comme beaucoup de Brestois, dit Tyrambique. Et lui, il a connu l'OM. Alors, c'est forcément une question qui vous intéresse. Lui, il était joueur là-bas sous l'ère Michel Hidalgo comme directeur sportif. Et il me dit, je pense que c'est l'homme idéal pour ramener de la sérénité à l'OM, sans nier évidemment la difficulté du challenge qui l'attend.
Et bah pile, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Est-ce que Lorenzi est le candidat est idéal pour l'OM? 32-16 pour en débattre avec nous. Jérôme, quand tu as vu les infos de Flo Germain hier soir, la confirmation donc que Lorenzi succéderait à Mehdi Benatia, comment t'as réagi? Est-ce que tu penses que c'était un bon profil?
Bah déjà, la bonne nouvelle, c'est de trouver le profil et la personne assez tôt dans la saison, du moins. Dans la prochaine saison, et je pense que là c'est très bien de le faire maintenant, parce que même si c'est pas encore officiel, il peut commencer à travailler sur des dossiers importants, et déjà le dossier de l'entraîneur, c'est le plus important derrière, pas se tromper de profil d'entraîneur. Mais moi je l'avais dit avant, c'était le président, il était forcément important après le départ de Longoria, donc savoir qui allait arriver, c'est le cas, mais pour moi c'était pas la priorité. La priorité c'était le patron du sportif. Et là en effet, quand tu décides assez vite de donner les clés du camion à Lorenzi, Bah, ça a sens pour moi. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans, comme l'a dit Pierre-Yves à l'instant, 10 ans qu'il est à Brest, 10 ans qu'il a grandi avec Brest. D'accord, il a bien fait grandir le Stade Brestois, mais aussi à l'inverse, le Stade Brestois a aidé Lorenzi, si tu veux, à se faire un nom dans le football en tant que directeur sportif.
Il a jamais dépensé plus de 5 millions d'euros pour un joueur.
Mais c'est pour ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça lui a ouvert des portes. Il s'est créé un réseau pendant 10 ans. Bien sûr que il y a des échanges très importants qui ont pu se faire et réguliers certainement avec des dirigeants de clubs adverses pour monter une équipe qui est montée de Ligue 2 en Ligue 1 et qui derrière, à la surprise générale, a quand même fait la Ligue des Champions à Brest. Donc rien que ça, déjà, ça montre à quel point il a pris de l'expérience, il a progressé et que il a mis la barre très haute. Et forcément. Et parce que je le sais, il a été très courtisé après cette fameuse année de Ligue des Champions.
Pas la même pression, il était à deux doigts de s'engager à Nice, d'ailleurs, mais, Jérôme, on peut le confirmer.
Ouais, non, mais Pascal, je finis juste et après je te laisse la parole. Ouais. Peut-être qu'en effet, c'est pas le même réseau et pas les mêmes attentes à l'Olympique de Marseille. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme je te disais, qu'il avait été courtisé et très courtisé par des clubs intéressants, que ça soit en France, mais surtout à l'étranger, il a quand même décidé après la Ligue des Champions de rester à Brest pour continuer, si tu veux, à expérimenter un petit peu l'après Ligue des Champions. On savait que ça allait être difficile. Ouais. L'année dernière, ils finissent 9e.
Ouais.
Ils finissent 9e. Non, mais c'est incroyable. 9e avec cette année, avec un des plus petits budgets, parce qu'ils ne sont pas envoyés en l'air après avec la Ligue des Champions.
Là, ils n'ont pas fait de folie. Ouais,
ils ont réussi à finir dans les 24. Quand tu t'appelles Brest, et c'est moi qui te le dis, parce que l'année d'avant, quand ils se sont qualifiés, j'ai dit, mais c'est une mauvaise idée pour la Ligue des Champions, pour le football français, que Brest fasse la Ligue des Champions. À l'arrivée, ils sont finis, contrairement à certaines équipes qui ont plus de moyens, dans les 24.
Contrairement à ce futur club.
Donc c'était incroyable. Et cette année, mais franchement, c'est un maintien tranquille. Tranquille. Alors oui, ils font moins bien que l'année dernière. Pour l'instant, ils sont 12e ou 13e du championnat.
Ils ont encore perdu des joueurs.
Mais ils ont perdu des joueurs, mais c'est un maintien tranquille. Donc, pour te dire que il s'est pas envoyé en l'air, il a gardé cette humilité de travail parce qu'il a décidé de rester. Et pour moi, c'est une preuve d'intelligence. Déjà, j'ai aucun doute qu'il soit bien plus compétent que certaines personnes pour occuper des postes importants dans le football français. Là, ça lui tend les bras. En plus, je le sais de source sûre, il a toujours aimé l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est quand même un point important. Il s'invente pas une vie de ce côté-là. Il est né à Bastia, comme il l'a dit Pascal tout à l'heure. Mais à Bastia, tu peux aussi être amoureux soit du Paris Saint-Germain, soit de l'Olympique de Marseille.
Ah bon,
en effet, si, j'en ai connu plein. Et t'en fais pas.
Non,
et sauf que lui, c'est vrai que il a toujours été plus ou moins en accord avec ce club Olympique de Marseille. Donc pour ça, pour moi, c'est une bonne idée. Il va continuer à passer le cap. Pourquoi il faut mettre un plafond de verre ? Pourquoi il faut se poser des questions quand il arrive ? Moi, je vais te dire, c'est bien, beaucoup d'humilité. Il va se mettre au travail. En plus, je vais te dire, il faut lui laisser le temps. Parce que quand tu vois la direction sportive, ce que ça a donné cette année, où c'est pour moi, depuis les 20 dernières années, la pire année de l'Olympique de Marseille, on en a encore parlé hier avec des Marseillais, que ça soit avec Flo ou avec Eric Dimeco, ils étaient d'accord avec moi là-dessus. Donc, pour moi, laissez-lui le temps, il peut pas faire pire que ce qui s'est passé cette année, je te le dis, avec des moyens peut-être, et c'est même sûr, inférieur, mais là où il va faire preuve d'intelligence, eh ben moi, je suis persuadé que c'est le bon profil. En tout cas, ça me rassure dans un sens où il va pas s'envoyer en l'air. Et peut-être, contrairement à ce que je pensais il y a quelques mois, peut-être que sur le banc, il faudra peut-être amener quelqu'un de plus posé. Et c'est là que lui, avec le rapport qu'il a et sa façon d'être, on l'a entendu parler, où il parle bien, il fait preuve de beaucoup d'humilité. Moi, j'insiste là-dessus, mais c'est un bosseur. Bah écoute, pour moi c'est une bonne idée.
Papier dispo sur rmcsport.fr à l'instant, signé Florent Germain. Deux noms se dégagent et font partie des favoris pour être désigné futur entraîneur de l'Olympique
Bruno
de Marseille.
Genesio.
Deux Français, Christophe Galtier et Bruno Genesio, qui auraient le profil pour pourquoi pas entraîner l'OM la saison prochaine. Jean-Michel, est-ce que c'est le candidat idéal, Grégory Lorenzi, pour le poste de directeur sportif à Marseille?
En tout cas, c'était le meilleur qui soit disponible, de loin et de très très loin. J'ai eu la chance de bien connaître Grégory. Je connais sa façon de travailler. Et au-delà de ses compétences, au-delà de ce qu'il peut amener, de ce qu'il a fait parce que, bon, contrairement à beaucoup qui arrivent en roulant des mécaniques et qui n'ont jamais rien prouvé,
ça, c'est vrai.
Et lui, il arrive avec de l'humilité en ayant prouvé. Tu vois, la différence est quand même sensible. Je préfère ce genre d'individu que les rouleurs de mécanique qui n'ont rien fait et qui ont tout à apprendre. Mais et puis qu'il ouvre très très fort. Il avait failli partir déjà. Et Denis Le Seum m'avait laissé entendre qu'il était en grande négociation avec Grégory. Non,
avec
il voulait garder. Tu penses bien que Denis Le Seum voulait bien garder Grégory.
Ouais, c'est vrai, toi notre insider. T'as des infos alors.
Et puis au-delà de ce qu'il a fait et plutôt bien fait. Bon, maintenant il va falloir, c'est un autre club, c'est une autre dimension, ce sont d'autres joueurs certainement. Mais moi je trouve que c'est un vrai signal sur le changement éventuel. Je dis éventuel parce que il faut qu'il y ait un directeur sportif qui a le profil de Grégory. Ça, je suis à 100% d'accord. Mais il faut que tout le reste suive. Je pense que le président est un président relativement président délégué est un président réfléchi et calme.
Ouais, ça,
on a un directeur sportif qui est réfléchi et calme. Et comme je voudrais que de temps en temps à l'Olympique de Marseille il y ait un entraîneur réfléchi et calme. Je pense que ce serait une bonne chose. Ouais, et l'arrivée de Grégory est un vrai signe là-dessus. Je pense que c'est la nouvelle plutôt que d'avoir des gens. C'est très bien d'avoir des gens enflammés, mais quelque part de temps. Et puis dernier point. Moi, j'attends avec impatience de savoir, là, ça risque d'être un petit peu plus problématique, de savoir ce que vont devenir tous les adjoints qui étaient là. Parce que Grégory Lorenzi, il a quelques scouts, il a un carnet d'adresses exceptionnel, mais il va pas avoir 10 personnes autour de lui à l'Olympique de Marseille. Je vous le dis tout de suite. Donc, il y en a certains.
Peut-être qu'il aura besoin d'avoir un peu plus de monde qu'à Brest, quand même, hein, ouais. Vu l'ampleur du.
À Brest, il y avait lui, son frère et le désert de Gaulle.
Thierry Bonalère avec.
Voilà. Et son
Thierry
frère Bonalère, devrait l'accompagner, d'ailleurs. Pierre-Yves le sait bien.
C'est un génie. Il a vendu Romain Fèvre 15 millions à Lyon.
Ouais. Alors qu'il l'avait acquis pour une très petite somme.
Pourquoi tu mets un taquet comme ça à Fèvre, toi?
Non, c'est pas un taquet.
C'est gratuit.
Non, il a raison,
c'est
bien vendu.
Ouais. C'est gratuit.
Non, mais il a bien vendu. Il a très, très bien vendu.
Ouais, tu lui as mis un taquet.
Qu'est-ce que t'en penses,
Pascal? Il a bien vendu dernièrement. Mathieu Camara à Rennes, il a bien vendu.
Il en valait 5.
Non,
mais c'est un Corse qui va débarquer à Marseille. Ça, c'est une très, très bonne chose parce que tout l'environnement du club, il y a beaucoup de Corses.
Ah bon?
Et on discute avec pas mal de Corses et ça c'est une bonne chose parce que Lorenz il est tranquille.
On dit Lorenz.
Lorenz.
Vous êtes les Pins, vous dites Lorenz.
Lorenzi. Les Pins.
Voilà, non. Lorenz. Non, c'est quelqu'un qui arrive, il est réputé pour repérer des joueurs et ça c'est une très très bonne chose. Il prend le coach Bruno Genesio. Je pense que le travail va être fait très rapidement, de monter une très très belle équipe, des joueurs qui vont respecter le vestiaire,
attention,
des joueurs
finance,
qui vont faire le travail qu'il faudra. et la langue de bois, je pense que ça restera en interne et les choses seront dites.
Avant d'accueillir Joris, je vous glisse juste un chiffre. Il y a déjà 38 millions d'euros à débourser en options d'achat levées. 18 millions pour Medina, 7 pour Ahmed Junior Traoré et 13 pour Timothy Weah.
Ça, c'est des belles affaires.
C'est déjà 40 millions d'euros qui seront dépensés par l'OM automatiquement l'été prochain. Joris, supporter de l'OM avec nous au 32-16, Jérôme.
Salut Joris.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue Joris. Bon alors, comment t'appréhendes cette nouvelle de l'arrivée de Lorenzi et du président aussi il y a quelques semaines. Comment tu vois la suite toi?
Ben on a bien compris que le braquet devait être changé puisqu'on était très enthousiastes sur le trio qui devait.
C'est vrai.
Plus jamais bougé entre De Zerbi, Longoria et Benatia. Moi, j'étais très très satisfait de ce qui était promis, du moins. Et bon, on a vu comment ça s'est terminé. Donc, on a remis des gens peut-être qui sont capables de gérer certaines crises, comme le président. Il a géré une grande entreprise qui était Orange. Il arrive à l'Olympique de Marseille. Moi, je vois pas ça comme un signe d'austérité ou quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui devrait réussir à gérer une société. Et la société de l'Olympique de Marseille, elle est forcément pas évidente non plus à gérer, vu comme ça s'est passé encore cette saison. Et puis moi, je dirais Lorenzi juste comme ça, hein, si vous m'en voulez pas. Mais c'est un directeur sportif qui connaît très bien le championnat, qui aura peut-être la tête un peu plus froide sur certains sujets, puisque c'est son métier. Et ça n'empêche pas, moi j'ai pas un avis que négatif sur Mehdi Benatia, mais c'est peut-être pas son métier. Il manquait certainement un petit peu d'expérience par moment.
Et de compétences aussi. Après, c'est pas grave. L'année dernière, il a fait du bon boulot. Cette année, il s'est trompé sur toute la ligne.
Sont trompés sur beaucoup de choses et ça a été un peu
surtout
compliqué.
Même surtout tu peux le dire, c'est pas grave, hein, c'est pas honteux de dire qu'il s'est trompé sur toute la ligne
et qu'il y a un problème de communication.
Tu vas pas lui faire dire à notre auditeur ce qu'il ne veut pas dire.
Voilà, moi j'ai pas envie de dire ça, donc je le dirai pas.
Bah, mais non, voilà. Mais en fait c'est pas une question.
Je finis parce que j'y arrive et voilà, donc vous savez que qui se sait, donc on saura tout plus tard et on aura tout à même pour pouvoir juger véritablement.
Mmh. Mais juger quoi ?
Pour l'arrivée de Lorenzi, moi je suis plutôt, je trouve pas ça négatif. Peut-être que ce sera quelqu'un de beaucoup plus calme, de beaucoup plus posé. Ça permettra peut-être aussi à Jérôme Rotten d'être un peu moins enflammé quand il parlera de tous ces sujets-là. Et ça sera peut-être un peu mieux pour l'Olympique de Marseille.
Mais alors attends, Joris,
c'est vrai qu'il
Joris, moi je vais répondre à toi. Je vais répondre à ta petite attaque, mais bon, j'assume, il n'y a pas de souci.
Jérôme, ça faisait un moment que je ne voulais plus passer chez toi, mais je te connais quand même. Je sais que je peux parler avec toi de ça tranquillement.
Exactement, mais c'est pour ça. Non, mais je vais juste réagir. C'est juste que, en effet, cette année, j'ai été très critique et très enflammé, ouais, comme tu l'as dit. Mais bon, à l'arrivée, je suis désolé, mais malheureusement, pour tous mes détracteurs et qui m'ont senti dur, malheureusement, ça m'a donné raison. Eh oui, n'en déplaise aux gens, ça m'a donné raison. Ouais. Et puis, il faut quand même avoir aussi de la mémoire, parce que c'est aussi bien d'avoir la mémoire, Joris, parce que tous les supporters de l'OM, du moins certains qui pensent que je suis très dur quand je parle de l'OM, parce que je suis parisien. Mais l'année dernière, quand j'ai défendu corps et âme l'Olympique de Marseille, parce que je croyais comme toi à ce projet avec De Zerbi, avec Benatia et avec Longoria, à l'arrivée l'année dernière, quand ils ont fait quand même quelques dingueries avec les arbitres dans le comportement, c'est pas moi qui le dis, c'est les sanctions qui sont tombées. À chaque fois, j'ai mis le pied sur le frein sur les critiques, contrairement à d'autres, où j'allais toujours dans le sens de l'OM, et ça m'a aussi donné raison l'année dernière, et ça leur a donné raison, c'est qu'ils ont arraché la Ligue des Champions.
Donc, deuxième.
Tu vois, il faut aussi avoir de la mémoire. Après, en effet, et j'assume, cette année, je suis très dur.
Et Jérôme, sur les aspects où tu as été, clairvoyant, comme la saison dernière, sur certaines choses, c'est pas parce que tu as eu dit du bien un moment de quelque chose que forcément, si tu en parles mal, ça remet ton cœur. C'est pas la question, ça. Mais force est de constater, ça c'est pas tout fait. Là, on prend à l'instant T, oui, l'Olympique de Marseille, sur la saison 2025-2026, s'est trompé d'une grande largeur.
Ça,
personne ne pourra dire le contraire.
Ça, c'est clair.
Bonne année. C'est sûr et certain. Où ça m'inquiète un peu, ça me gêne. Enfin, ça m'inquiète pas, mais là où ça me gêne, ça va être sur le choix de l'entraîneur.
Ouais. Alors tu verrais qui dans les noms qu'on a cités, notamment, parce que
ça te fait pas rêver, Galtier ou Genesio.
On veut un entraîneur français, a priori.
Voilà, ben moi, Genesio, j'ai jamais été un grand fan de Genesio. Ouais. Parce qu'il se plaint après souvent de la pression qu'on peut lui mettre. La pression qu'il avait à Lille, à Lyon, à Rennes. C'est pas la même qu'à l'Olympique de Marseille, parce
ça,
que quand il a voulu, là, cette saison, par exemple, qu'il a soi-disant émis une démission ou quoi que ce soit, moi je me souviens de ça et j'en avais parlé. Je crois que Jérôme vous en avait parlé à peu près 3 minutes et demie. Mm-hmm. De Zerbi a juste dit, après le match d'Auxerre, que s'il était le problème, il allait partir. Vous en avez parlé pendant 2 ans.
C'est vrai.
Si jamais il se pointe un jour en disant juste, oh fou, vous n'êtes pas gentil avec moi, je vois.
Et Galtier, Joris, ça t'emballe plus ?
Galtier, le souci de Galtier, et moi j'étais, et c'est le passage. Alors forcément, on y a proposé le PSG, entraîner les meilleurs joueurs du monde. Forcément, il n'allait pas dire non. Et c'est sûr, je j'ai plus 20 ans, hein, c'est, j'ai un peu vieilli. Ouais. Donc
bon, après, il était amoureux du PSG, il a le droit d'être amoureux du PSG aussi. Hein.
Non, il dit qu'il avait toujours aimé le PSG quand il est signé.
Arrête, je vais prendre ce séquence, Jérôme, je vais l'envoyer à Eric direct, tu vas recevoir 4 textos
dans la seconde. Joris, faut toujours faire attention et je vais pas raconter les discussions en privé.
Joris.
Mais, il était quand même très bien au PSG. Voilà.
Joris. Pas très bien, ça peut-être, mais.
Ouais, Pascal.
Joris, t'aurais aimé que je prenne la présidence de l'OM?
Mais Pascal, moi j'aurais aimé. Moi déjà, j'aimerais que tu viennes à mon podcast. Parce que ce soir, j'ai un podcast sur l'Olympique de Marseille, donc j'aimerais beaucoup que tu viennes.
Et ben voilà,
Joris. Non, mais moi, je viendrai, par contre, je te promets.
À chaque fois, tu essaies de t'incruster.
Lui, il vient parce que c'est pas payé.
Je sais plus, moi, comment te le dire, je veux pas que tu viennes.
Ah bon? Ma merde, putain, mais moi, regarde, je t'accueille dans mon émission et je te propose de venir grâce.
Ah là, elle est trop bonne.
C'est incroyable.
Jérôme, si de pas sûr, je te dis.
Je souris, je déguste. Non, je déguste. Je bois du petit lait. Moi, que c'est bon.
Je vais passer pour qui si je te dis oui, viens volontiers.
Mais pourquoi? Mais tu fais combien? Tu fais combien de podcasts par mois? Tu fais combien de podcasts par mois?
Bon.
Jérôme, vous reviendrez quand vous serez dans l'anonymat. Quand le Qatar sera parti, tu reviendras vers nous. Ah. Et là, pour l'instant, vous parlez
avec toi. Non, mais Joris, j'aimerais bien faire ton podcast avec la deuxième étoile. Comme ça, au moins, je viens avec.
Il faut attendre le 30 mai.
C'est la condition pour laquelle tu ne viendras pas, Jérôme. Bon. Voilà, c'est pour ça.
Et Joris, merci beaucoup. C'était très sympa de t'avoir ce soir dans
J'ai l'impression que ça lui coûte merci, pas Joris. De se passer de toi, Jérôme.
Je suis pas trop étonné.
On t'envoie le numéro de Pascal Olmeta. Il viendra avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Il n'y
a pas de problème.
Allez, Joris. Volontiers, Joris.
Eh bien, allez, avec plaisir. Merci, Joris. Bye bye.
Salut, Joris.
Et on remercie Pierre-Yves Leroux qui était avec nous.
Merci, Pierre-Yves. Les podcasts.
Ciao, ciao.
Voilà, il préfère faire avec Pascal.
La bise à Yvon, ton tonton. Évidemment, Pierre-Yves. Merci, Motion. Et dimanche, c'est Marseille-Rennes. 21h sur RMC pour.
Moi, non, mais c'est le BICO.
Ah, bah oui, le BICO.
Le BICO.
Une saison qui a été très animée.
Puis attends, et tu me donnes deux entraîneurs là sur la liste. Et notre cador là.
Quel cador?
Abibay, il y est plus. Abibay, entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Alors, c'est Abibay, de l'acharnement là. Stop.
Abibay, entraîneur de l'Olympique de Marseille. La tendance, c'est indépendant pour l'instant.
Ah ouais?
Parce qu'on lui a fixé des objectifs et ils sont pas.
Notre guide. Donc,
on verra après. On ne sait jamais.
Patin.
On verra. Dans un instant, justement, on continue de parler des entraîneurs français.
Il fait la conférence Ligue, il sera en Coupe d'Europe.
18h30, le procès. De tous ceux qui pensent que les entraîneurs français sont dévalorisés.
Ah bah oui, tiens, on parlait d'Abibay.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h32 sur RMC. Qu'est-ce qu'on rigole pendant la pub avec Benoît Boutron, avec Jean-Michel Larquet et avec Pascal Olmeta. On se régale depuis 18h. On a parlé de Greg Lorenzi.
Oui.
Qu'on félicite. Oui, on l'a pas félicité. Lorenz. On l'a pas félicité. Le directeur sportif, c'est une vraie progression dans sa carrière. Bravo. Bravo à lui. On a hâte de voir ce qu'il va donner. On continue l'émission. On est là jusqu'à 20h. À 18h45, le Allo Jérôme.
Ah, 50 ans jour pour jour après la finale, les poteaux carrés à Glasgow. La défaite malheureuse des Verts fantastiques face au Bayern Munich, 1-0. Le but de Roth à la 57e minute qui hante les nuits de Jean-Michel Larquet. On reviendra sur cette finale de légende avec Jean-Mi.
C'est l'infirmière qui hante les nuits.
Et Christian Lopez.
Ah bah oui.
Il sera là aussi. Ah oui, évidemment.
Une espèce de jaloux.
D'ailleurs, un merci particulier à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent en podcast. La chaîne Roten sans flamme qui marche très fort, notamment
très
nouveau podcast Légende ou pas Légende.
Ah, il marche bien.
Les podcasts.
C'est enregistré pendant les pubs.
Les pubs, ouais.
Non, mais Jean-Michel et Pascal ont fait tous les soirs, on traite d'une personnalité du monde du foot. Légende ou pas légende de son club, de son pays ou légende du foot mondial. Hier, on a fait Eric Dimeco en face de lui. C'était assez marrant. Allez, écoutez.
Ça s'est vite arrêté. Ouais.
Et ce soir, on va faire Didier Drogba. Et Pascal Olmeta.
Non, Pascal.
La légende du football corse.
Ah oui, c'est vrai que Pascal, on peut faire ça.
Ah bah ouais, évidemment. Allez, on y va tout de suite, c'est le procès.
RMC, Roten sans flamme.
Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? T'as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire?
Derrière ce sourire de Roten sans flamme.
On va faire Franck Leboeuf d'ailleurs. Hein. Ah ouais, notre ami Francky.
Francky, on l'embrasse déjà. Légende dans les théâtres.
Ah évidemment, acteur légendaire.
Non, franchement, il est très bon.
Pierre Stage a donc été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 au trophée UNFP hier. Ouais, exactement. Trophée qui récompense une saison exceptionnelle. Deuxième place de Ligue 1, finale de Coupe de France dès sa première saison à Lens. Plus globalement, on a trois entraîneurs français dans le top 5 cette saison du championnat. Sage, Genesio et Hez. Les deux autres, ce sont Paulo Fonseca à Lyon et Luis Enrique à Paris. Des entraîneurs français qui ont été soutenus et encouragés hier par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Et précisons d'ailleurs que sur les six dernières saisons, cinq coachs français ont été récompensés meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Galtier, Genesio, Hez, Roy et Sage. L'exception, c'est Luis Enrique l'an dernier. Alors ce soir, nous allons ouvrir le procès de tous ceux qui pensent que les entraîneurs français sont dévalorisés. Le procureur, c'est Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Les avocats de ce procès sont Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Pascal Olmeta. Bonsoir.
Et bonjour à toutes.
Et c'est Ahmed, supporter parisien, fidèle auditeur de Rotten sans flamme, qui va rendre son verdict. Salut Ahmed.
Salut Ahmed.
Qu'est-ce qu'il y a?
Merci Ahmed.
C'est quoi ton enthousiasme modéré?
C'est le deuxième contre-pied qui me fait, hein.
Moi? Non, pas du tout.
Vas-y.
Mais non. Alors Jérôme, toi tu en as marre qu'on dise que les entraîneurs français sont dévalorisés.
Mais en fait,
c'est bien ça.
J'en ai marre parce que ça fait 6 ans que j'ai l'émission et tous les ans on a la même question. Voilà, donc c'est bien. Et j'attendais que ça tombe.
Pour toi, ils sont jugés comme les autres.
Je savais pas. Et puis souvent, c'est sur les trophées UNFP. En effet. Alors t'imagines quand c'est un entraîneur étranger qui gagne le titre de meilleur entraîneur. Comme Luis Enrique l'année dernière. Bon, mon Dieu, bah oui, on dévalorise le football, les entraîneurs français. Et puis, quand il y en a un qui tombe, comme Pierre Sage, et je trouve que c'est totalement logique qu'il ait, par rapport au travail qu'il a réalisé, les résultats qu'il a réalisés avec Lens, avec les moyens qu'on lui a donnés au départ de sa mission, bien sûr qu'il a performé. Et plus que ça même encore. Donc c'est totalement logique. Il va peut-être gagner la Coupe de France. Il est en finale. Il va faire la Ligue des Champions. Le PSG a 2 journées de la fin. Ils sont pas encore champions officiellement, même si ils ont 15 buts d'avance. Ouais. Mais n'empêche que ils ont profité du fait que le PSG était un petit peu moins bien pour se rapprocher, grignoter et puis qu'il y ait un petit suspense, même si on va pas se voiler la face. Depuis le mois début avril, on sait que le PSG va être champion. Après, une fois que t'as dit ça et que c'est Pierre Sage, là, tout le monde a montré que ils sont valorisés, les entraîneurs français. Parce que si on lui avait pas donné à Pierre Sage et qu'on avait donné à Fonseca, par exemple, qui a fait un énorme boulot, désolé de dire que Fonseca, il est pas français. Eh non, il est portugais. Donc à partir de là, c'est pas.
On a marre qu'on fasse passer les entraîneurs français pour des victimes, quoi.
Mais aujourd'hui, c'est juste factuel. Tu regardes qui est. Sont à la tête de nos meilleurs clubs en France. Écoute, t'as des entraîneurs français et t'as des entraîneurs étrangers. Alors écoute, moi j'ai pas l'impression qu'il y a certains dirigeants qui te disent absolument « Ah non, nous on veut pas d'entraîneur français parce qu'on préfère l'entraîneur étranger et l'entraîneur portugais qui a été à la mode grâce à José Mourinho et à tous les bons entraîneurs qu'il y a eu, ils ont eu un grand vivier. » Aujourd'hui en France, il y a des entraîneurs en France qui ont marqué leur génération et qui ont marqué l'ère du coaching. Il n'y a pas de souci. Après, c'est juste là encore factuel. Tu regardes ceux qui arrivent à s'exporter, parce que pour moi, un entraîneur, un grand entraîneur, qu'il soit français ou étranger, la réussite, elle est en France, oui, en Ligue 1. Mais s'il est très bon, il s'exporte et il gagne des grands titres à l'étranger. Ils sont où? Ils sont où? Zidane. Parce que non, mais d'accord, mais Zinedine Zidane, il a jamais entraîné en France.
Il y a que le Brice en poste en première ligue.
Il y a que le Brice et les autres qui sont des bons entraîneurs de Ligue 1. Pour l'instant, on a une petite incertitude de ce côté-là. Et il y a des exemples. Et je finis juste là-dessus parce que pour moi, c'était pour moi, c'était très facile, si tu veux, de mettre l'entraîneur français en avant. Il y a quelques années maintenant, Christophe Galtier est arrivé à la tête du Paris Saint-Germain.
Ouais.
D'accord? Parce qu'on reprochait, après le départ de Laurent Blanc, que ça soit avant Laurent Blanc, c'était Carlo Ancelotti, et après, il y a eu que des entraîneurs étrangers, d'accord,
Pochettino.
Avec des échecs aussi. Ils ont décidé, le PSG, et bon, même si c'était Galtier, moi ça me dérangeait un peu, vu son appartenance à Marseille, qu'il arrive parce que c'était le meilleur entraîneur français. C'est vrai, il venait d'être champion avec Lille, rappelle-toi. Et ce qu'il avait fait à Nice, c'était quand même du très bon boulot. Une fois que t'as dit ça, quand tu prends Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, qui était le cador, l'entraîneur français cador. Vous avez vu ce qui s'est passé au PSG? Comment il a géré ce PSG-là?
C'était pas le même PSG non plus, mais
non, ouais. Non, mais c'est pas le même PSG, je suis désolé. C'était lui qui était à la tête de ce PSG-là.
Pas beaucoup plus mal que Pochettino.
Écoute, pas vieux que Pochettino, ou Emery, ou Tuchel. Bon, ouais. Loin de là. Donc votre entraîneur, comme vous l'avez nous vendu, parce que c'est un entraîneur français, et Pascal et Jean-Michel, ils vont aller là-dessus. Bah écoute, il a été respecté à sa juste valeur.
Il n'y a pas d'erreur.
Il s'est exporté, il est parti en Arabie Saoudite.
Voilà. Vas-y Jean-Michel, voilà. Parole à la défense. Bon.
Non mais je dis, non mais d'abord j'ai, effectivement, je trouve assez étrange que sans véritablement de résultats objectifs, on considère que les étrangers sont meilleurs que les Français ou que les Français sont meilleurs que les étrangers. Déjà. C'est la première chose. Parce qu'effectivement, on peut citer ceux qui ont réussi parmi les entraîneurs étrangers. Et je sais immédiatement que Jérôme va enfourcher les réussites de Luis Enrique. Et il a raison. Mais il y en a aussi quelques-uns qui se sont bien plantés. Il y a quelques minutes, nous parlions d'un club qui est dans le sud de la France.
De Zerbi.
Avant l'arrivée d'un entraîneur de l'OM à Bibey.
Bravo Jean-Michel.
Ils sont au téléphone pendant que mon épouse conduisait. Que l'entraîneur. Il y a quand même eu une belle brochette. Une belle brochette de d'entraîneurs. Il me semble que Tudor est étranger.
Tout à fait.
Total triomphe. Marcelino, étranger. Total triomphe.
Gattuso, c'était mieux.
Étranger. Total triomphe. De Zerbi, étranger. Total triomphe. Donc, si on va sur ce point.
Tu cites un seul club.
Évidemment. Tiens, alors, puisque je ne cite que pas. Je vais citer un autre club. Qui est le tien? Qui est le tien? Ou un des tiens?
Oula. Lequel?
Un des tiens.
Ah non, le dernier. Pas l'AS Monaco.
Le dernier, Uther.
Pocognoli.
Il est même pas en conférence, il est même pas repêché si éventuellement.
Il est comme français.
Donc, à un moment ou un autre,
je dis simplement
que, à un moment donné, c'est vrai, tu parlais de la mode portugaise qui était menée et par Mourinho qui était la tête de gondole et par Jorge Mendes qui était l'agent. D'accord, je dis pas, tu vois, je suis beaucoup plus modeste que toi Jérôme, beaucoup plus modeste que
beaucoup
toi,
beaucoup plus modeste.
Je dis pas que les entraîneurs français sont nettement moins bon que les étrangers.
Mais j'ai jamais dit ça,
moi. Je dis simplement que les étrangers sont pas véritablement meilleurs que les Français.
Mais c'est Pascal, vrai. Qu'est-ce que tu veux rajouter alors, avant le verdict?
Ce que je veux rajouter, que la différence, c'est que bon, nous on peut les citer, nos grands entraîneurs. Rien que Didier Deschamps, français, Zizou, Thierry Henry, Luis Fernandez. On oublie tous ces noms. Mais oui, Gérard Rouillet, malheureusement, Arsène Wenger. Mais eux ont toujours eu un staff très limité avec un entraîneur de gardien et juste un suppléant. Et tous les étrangers français.
Les Gaulois, quoi.
Un staff. Ah bon? Les Gaulois, si je dis ça, je vais me faire tuer.
Ils sont dans la plaine.
Oh, il a dit les étrangers français.
Va caguer, continuez, va, Benoît, allez.
On n'y a pas pensé, mais on pourrait faire un ticket Corse à l'OM, Lorenzi Pantaloni. Alors,
Pantaloni. Non, mais Pantaloni.
Très bon coach.
Pantaloni,
il est président de l'OM.
Lui, il est Corse.
Mais très bon coach.
Pantaloni n'est pas français étranger.
Avec Lorenzi Pantaloni.
Non, mais Pantaloni, il n'est pas étranger français.
Non, c'est vrai.
Jérôme.
Ahmed, vas-y, on va voir le verdict, Ahmed.
Hop, une saute.
Alors, t'es d'accord avec qui? Avec la doublette Olmedo à la pied ou avec Gérôme?
Ahmed,
avec nous.
Alors.
Moi, je trouve que les entraîneurs français sont pas mauvais quand même. Sage, il fait un gros boulot quand même à Lens avec presque rien. Il a mis un pro dans chaque ligne, il a mis Tovin pour tenir la boutique et il fait deuxième. Et si on regarde De Zerbi, qui était, on nous avait parlé du moment De Zerbi qu'il avait apporté à l'OM, il a échoué lamentablement. Ouais. Il a rien fait. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que Genesio et que tous ces gars-là, ils aillent un peu à l'étranger. Claude Puel, il avait été en Angleterre, il avait fait un beau parcours là-bas.
À Leicester, ouais.
Deux fois, il a été à Leicester et à Southampton.
Tout à fait.
Donc, ça serait bien que ces entraîneurs ils sortent un peu, qu'ils aillent en Angleterre montrer. Et je pense qu'ils pourraient faire de bonnes choses.
Hein. Bah, Santini a essayé.
On a eu Rudy Garcia aussi.
Santini a essayé à Tottenham.
Oui, Rudy Garcia.
Ouais. Rudy.
Ça nous envoie les bons jours.
Qui
Jaco. Bah oui, Jaco, il a essayé à Tottenham.
Jaco, on lui a pas laissé le temps.
Ouais, de s'exprimer déjà. Merci, Ahmed. Tu donnes la victoire
Merci
à qui
beaucoup.
Du coup?
Bah à moi.
Tu donnes à Jérôme.
Jérôme.
Les cracks, c'est ils sont pas dévalorisés du tout.
Mais Ahmed, tu as rien compris.
Ahmed, tu es un Gaulois aussi.
Pourtant, ce qu'a dit Pascal était clair.
Ah bah oui, les entraîneurs étrangers français. Allez, dans un instant, allô Jérôme.
Mais il a passé la journée au village.
Les 50 ans, jour pour jour, de la finale de Glasgow contre Bayern.
Les piles sous et les Gaulois.
Non, j'étais sur Paris.
Ah, venez venir en studio, qu'est-ce que tu fais alors?
Non, mais j'avais mieux, j'avais mon ami Patrick Partouche qui ouvrait un grand, voilà.
Un grand quoi?
Un grand quoi?
Casino.
Ah bah oui, bah dis-le.
Tiens, en plus, j'allais te dire, il est à Paris, il est dans les cercles de jeu, je suis sûr, il n'y a que les Corses.
Il n'y a que des clichés dans cette émission.
Il n'y avait que nous, ouais.
Dans un instant, allô Jérôme, Christian Lopez, les retrouvailles
les Gaulois,
avec Jean-Michel Larquet, les Verts Fantastiques de 76, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. On a passé une excellente première... Allez. Ça fait 45 minutes qu'on est là.
Ah ouais.
Magnifique, trois quarts d'heure. On est encore là, une heure et quart, avec des bons thèmes. Après 19h.
Est-ce que Mourinho peut être le sauveur du Real Madrid? La conférence de presse extraordinaire dure encore. Florentino Pérez, qui est en train de s'exprimer, il a confirmé qu'il était en parfaite santé.
Je le vois faire des gestes.
Il est en train de régler ses comptes et il est en train de taper du poing sur la table. Et en tout cas, pour l'instant, rien ne change à Madrid. C'est juste le patron qui reprend le pouvoir. On vous
décortiquera
tout cela à 19h.
En parler.
Tout à fait. Mais tout de suite, célébrons ce magnifique anniversaire.
RMC, Rotel sans flamme.
Quand on revient à Saint-Etienne, on tire un bilan. Et le bilan, c'est le temps que nous avons passé ici. Et peut-être même 50 ans après, on a rendu le peuple stéphanois fier, fidèle et fier. Et je pense que c'est peut-être notre plus belle victoire.
Allô Jérôme.
Allez. Tu l'as déjà entendu Jean-Michel? Tu l'as déjà entendu cacher.
C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est nouveau.
Franchement, ça vieillit bien.
C'est pas du tout
ça vieillit
rien.
Bien. Ouais. Non, pas du tout.
50 ans jour pour jour après la finale de la Coupe des clubs champions 76 entre le Bayern Munich,
la chanson de Pascal avec,
et l'AS Saint-Etienne, l'épopée des Verts qui a traversé plusieurs générations. Les héros malheureux de Glasgow, cette défaite 1-0 sur le but de Roth à la 57e minute, et les mythiques poteaux carrés. Le capitaine des Verts est avec nous, Jean-Michel Larquet. Accueillons un des défenseurs centraux, Christian Lopez, qui est avec nous dans Roten sans flamme. Jérôme,
bonsoir Christian.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
Bienvenue, bonsoir Christian, merci d'être là.
Merci
bonsoir,
d'être là pour Christian. Fêter les 50 ans de la descente des Champs-Élysées sur une défaite. C'est magnifique.
Ouais. C'est vrai. On a perdu cette finale, mais je crois qu'on avait gagné le cœur des Français. Ouais. Et c'est pour ça que le fait que l'on ait descendu les Champs-Élysées et d'être reçu aussi par le président de la République, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, donc ce sont des souvenirs que l'on a pu se remémorer pratiquement toute la semaine dernière, jusqu'à hier d'ailleurs, puisque nous étions réunis et nous avons passé des moments vraiment extraordinaires.
Si on recontextualise, c'était le premier club français en finale de Coupe d'Europe depuis Reims en 56 et 59. Christian et Jean-Michel, comment vous expliquez que 50 ans après,
On a président tour, Pétain, il vous a bien cru quand même ce soir. Ce soir.
Ça raconte n'importe quoi. Jean-Michel,
toi,
comment on explique.
T'as été reçu par qui, toi
Ah, t'as été reçu par quel président, c'est vrai, ça,
par qui
Bah, on aurait pu le faire à Monaco, mais on n'a pas osé.
Non, mais je te pose la question, tu as été reçu par qui, toi
Mais on devait le faire avec Monaco, mais on a refusé.
Ah, mais non, mais je te demande par qui tu as été reçu.
Bon, si tu veux, Nicolas Sarkozy.
Quand tu as poussé la porte de l'Elysée, c'est quand que tu as porté
Ah, j'y suis allé plus souvent que tu le penses.
Bon, Jean-Michel, 50 ans après, comment tu expliques cet engouement incroyable? Comment ça se fait qu'on parle toujours des Verts de 76? Alors, c'est fou, non?
Non, mais parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le football français. Il y avait que dalle. Je crois que c'était 66, la dernière qualification. Même si les qualifications en Coupe du Monde étaient quand même beaucoup, beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont aujourd'hui, on n'était pas trop présent en Coupe du Monde, pas trop présent en Championnat d'Europe, et encore moins en Coupe d'Europe des clubs champions. Donc, on est arrivé un petit peu là comme des gens qui étaient un peu, je ne vais pas dire des sauveurs, mais et des gens qui redonnaient un tout petit peu espoir au football français.
Mais les gens s'y attendaient, Jean-Michel, je te coupe, désolé, mais les gens s'y attendaient à ce que vous fassiez une belle campagne ou c'était à la surprise générale.
Je vais laisser parler
à Christian.
Oui, non, mais c'est à tous les deux que je vous pose la question.
Ah, oui. J'ai beaucoup parlé, et puis juste vous dire qu'à l'époque, les clubs n'étaient pas structurés, ou plutôt les supporters n'étaient pas structurés comme ils le sont. Donc tu pouvais être supporter du Paris Saint-Germain le dimanche,
ouais, et supporter les Verts le mercredi, quoi.
Le mercredi. Et c'est pour ça que il y a eu une sorte de consensus autour de nous. Je laisse la parole à mon défenseur central qui était quand même qui dans le jeu de tête était bien supérieur à toi, tu vois,
Jean-Michel. Et à toi aussi, Jean-Michel, non? Ah oui.
Comment?
À toi aussi.
Non, le pire, c'est que même moi, j'étais supérieur à Jérôme Rotten dans le jeu de tête.
Comment on explique justement cette ferveur à l'époque?
Moi, je pense que il y a eu quand même pas mal de matchs où il y a eu des renversements de situation qui ont fait effectivement qu'on se soit qualifié et de la manière dont on le faisait, ça plaisait d'abord au public, bien sûr, puis aux supporters. Et je crois que grâce à certaines victoires, ce qui nous a permis pendant 2 ans d'aller une première fois en demi-finale et la fois d'après en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mmh. Donc c'est bien de le spécifier parce qui n'a plus rien à voir maintenant avec la Coupe d'Europe. Voilà. Mais je pense que ce qui a fait que l'on ait été aimé, c'est qu'il y avait ces situations où on perdait 3-0, 4-0, et au match retour, on se qualifiait. Donc, je crois que la façon dont ça se faisait aussi, en plus, ça plaisait à tout le monde. Et puis, effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, à cette époque-là, il n'y avait pas d'équipe française qui arrivait à passer un tour. Parce que même Saint-Étienne, par exemple, avant notre génération, ils passaient un tour.
Et derrière, le deuxième tour.
Voilà.
Christian et Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, je l'ai un peu chambré en début d'émission. Christian, est-ce que cette finale, ces regrets éternels, vous y pensez tous les jours? Ou non, ça y est,
quand même pas. Même à l'époque où ça s'est passé, effectivement, vous vous rendez compte, on perd une finale de Coupe d'Europe et on descend les Champs-Élysées reçus par le président de la République. Oui. Je crois que ça s'est jamais vu, ça.
Ah bah oui.
Donc, alors effectivement, le lendemain, quand on a descendu les Champs-Élysées, on était tout sourire. On était content, mais bon, après, on était encore footballeur professionnel et on n'avait pas que ça. Donc, on a disputé des finales de Coupe de France qu'on a gagné, des championnats qu'on a gagné. Et bon, le fait effectivement d'avoir perdu une finale de Coupe d'Europe, ça reste dans les mémoires, mais ça s'arrêtait là, ça allait pas plus loin, parce que d'abord, pour nous, c'était un métier, le football. Et il fallait qu'on essaie de refaire mieux que ce qu'on avait fait la saison avant.
Tiens, j'ai un message de Karl sur notre numéro WhatsApp. Christian Lopez, le roi du tacle bien fait. Merci de lui donner la parole. Quel grand joueur. Bah voilà, Christian, un bel hommage.
Merci.
Un mot sur la AS Saint-Etienne d'aujourd'hui, ça, Christian bon, et Jean-Michel, c'était toi. Parce que l'important, c'est la transmission. Est-ce que, d'après vous, il y a des beaux jours qui arrivent à Saint-Etienne? Il y aura ce barrage à disputer face au vainqueur de Red Star Rodez vendredi soir. Ensuite, on l'espère pour les Verts, ce barrage aller-retour contre le barragiste de Ligue 1, Jean-Michel. Est-ce que tu es confiant pour l'avenir de la Saint-Etienne?
Oui, parce que je pense qu'il y a l'outil est absolument magnifique, hein. Vraiment, vraiment magnifique. D'abord, il y a le public. Moyenne cette année, je pense qu'ils doivent être au-dessus des 35 000 spectateurs en Ligue 2. Donc, il y a ce qu'il faut. Le stade l'est tout autant. Il y a peut-être aujourd'hui. À revoir, il me semble qu'il y a une petite dispersion de l'énergie, on va dire comme ça, les choses comme ça, du côté du club. Enfin, je me suis adressé au propriétaire, je crois que le message est passé, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, et j'ose espérer que les petites erreurs de néophytes qui ont été faites ces derniers mois et cette année, mais qui peut se terminer très bien, ne se reproduiront pas dans l'avenir. Voilà.
Christian, vous êtes confiant aussi pour la suite?
Oui, de toute façon, nous sommes quand même encore supporters de la Saint-Etienne.
Ah oui,
donc on a eu la chance de passer quelques jours ensemble là, et de je vais dire entre guillemets festoyer. Mais c'est vrai que on attendait que la SS remonte avant de disputer ses barrages. Donc malheureusement, il y a eu trois matchs où il y a eu trois défaites consécutives. Et là, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, on va toujours supporter cette équipe. Et puis, bien sûr, après, vous savez, vous avez à côté de vous des footballeurs professionnels qui ont été footballeurs professionnels. Ils savent ce que c'est. Donc, moi, je reste et on est du même avis avec Jean-Michel, avec tous nos anciens coéquipiers sur ce que vient de dire Jean-Michel.
Merci Christian Lopez d'être venu dans Rotten sans flamme. Bravo encore ce drôle d'anniversaire, 50 ans après donc la finale de 76 entre le Bayern de Munich et la Saint-Etienne. Ah ouais. Ouais. Allez, pas faire faute. Hein,
merci Christian en tout cas.
Merci à vous et puis écoutez, au plaisir de se voir un séjour.
Voilà, avec plaisir. Dès que vous montez à Paris, vous êtes le bienvenu.
Ah ouais, bien sûr. Dans Rotten sans flamme.
Merci Christian.
Allez, merci.
Et au bon revoir, anniversaire à toute l'équipe des Verts, Jean-Michel. Salut. On pense à tous tes anciens coéquipiers qui étaient avec toi tout au long de ce week-end dernier.
Ouais.
Et beau moment d'histoire du football français qui a été célébré donc aujourd'hui sur RMC. Dans un instant, Rotten se chauffe. On parle du Real Madrid.
De Saint-Etienne.
Jacques Santini, on voulait l'inviter, mais le problème c'est qu'il aurait fallu prendre plus de temps parce que les phrases sont un peu plus longues.
Ouais, mais moi j'aimerais bien l'avoir, Jacques, quand même.
Pourquoi pas?
Ouais.
Bah, des trucs à lui dire.
Bah oui. Bah, écoute, je l'ai eu. Ça a été mon sélectionneur.
C'est vrai.
Hein.
C'est vrai. Ouais, ouais. T'en gardes des bons souvenirs.
Bon, oui.
Allez, on parle de Madrid dans un instant parce que sachez-le, Florentino Pérez est en train de sortir la sulfateuse dans cette conférence de presse extraordinaire. Il cible les journalistes un par un. Toi, t'as dit ça. Toi, t'as dit ça. On va tout vous raconter avec Clément Brossard. La rumeur qui revient à Madrid, ce serait un potentiel retour de Mourinho. Peut-il être le sauveur du Real? On en débat avec vous au 32-16. À tout de suite.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.